off your ass and let's do something. And let's fix the biggest crisis in the history of this country.
A memo. Remember, there's a few wars going on, a couple overseas and on my front lawn, when common sense was common, and now it's all gone. What's going on? And that's going on. And what's going on? And that's going on. And what's going on? And that's going on. And that's going on. And that's going on.
Il était sur son char.
Amateur, propagande.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, projet politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Oh, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour, vous êtes au Théâtre de la Gamelle, au 102.2 sur Radio Canu. Et je suis dans les loges. Est-ce que c'est des loges?
Les studios.
Les studios avec Julie et Teva.
Bonjour.
Bonjour Julie et Teva pour cette première lecture.
Salut.
Et mais c'est Sarah qui propose pour cette lecture Genèse numéro 2 de Ivan Viripaev. Ivan Viripaev, cet auteur russe qui aime jouer avec les mots. Et sans plus de présentation, Genèse numéro 2.
Bonjour, je m'appelle Ivan Viripaev et avant que vous ne commenciez à regarder le spectacle, je voudrais vous dire quelques mots au sujet de la pièce d'Antonina Velikanova, Genèse 2, que nous allons vous présenter aujourd'hui. Il est très important que je vous parle de l'auteur de cette pièce. Il se trouve qu'Antonina Velikanova est internée dans un hôpital psychiatrique. Son diagnostic est une schizophrénie aiguë. Elle m'a transmis cette pièce par l'intermédiaire de son médecin traitant. Voici la lettre qui l'accompagnait. Bonjour Ivan, je m'appelle Antonina. Comme vous l'a appris Arkady Ilyitch, je sais que vous n'avez pas le temps et que vous êtes occupé en permanence. Mais je me suis tout de même décidé. Bref, j'ai écrit une pièce. Je vous la transmets. Je vous prie, si c'est possible, de la mettre en scène. Arkady Ilyitch m'a dit que dans votre théâtre, vous mettez en scène même les pièces de gens qui sont en prison pour assassinat. Je n'ai tué personne. Je n'ai fait de mal à personne, mis à part moi-même et mes proches. si la mise en scène se réalise, je considérerai que j'ai accompli ma tâche. Si ça n'est pas le cas, donnez-moi une réponse. Si vous le jugez nécessaire, vous pouvez réduire ou compléter ce texte comme bon vous semble. Prenez garde à vous, je ne crois pas en Dieu. Je ne vous bénis pas, mais je vous souhaite bonne chance. Respectueusement, Antonia Velikanova.
Antonina Velikanova, Genèse numéro 2. Des nuages noirs ont couvert le ciel. Nuit noire. Tonnerre et foudre. Averse infernale.
Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent là, de peur d'être emportées par le châtiment de la ville. » Et comme il hésitait, les hommes le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, pour la pitié que Yahvé avait de lui. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Comme ils le menaient dehors, l'un d'eux dit
« Sauve-toi sur ta vie ! Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine ! Sauve-toi vers la montagne pour ne pas être emporté !»
Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu venant de Yahvé, et il renversa ces villes et toute la plaine avec tous les habitants des villes et la végétation du sol. Or, la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une colonne de sel.
Sur le plateau, la femme de Lot.
Je dis, ne cherchez pas un lundi rouge dans la journée d'hier. Autrement dit, ne faites pas comme les constellations et les planètes. N'errez pas dans le jaune gratuit. La vérité est que la couleur jaune cache un insurmontable danger, alors que le lundi rouge n'apporte ni peur, ni intention malveillante. Le lundi rouge est ouvert à la communication. Mais le lundi rouge est passé, resté dans la journée d'hier. Tout comme le poisson assoupi de la soupe que tu as mangée est resté dans l'océan d'hier. Je répète encore et encore et je suis prête à répéter. Le passé a déjà touché sa limite et le futur ne l'a pas encore dépassé. Que dire de cela ? La colle, pas autre chose. La colle, pas autre chose s'il ne reste rien d'autre. Rien d'autre sinon de rester figé, les bras ballants, et de regarder sans but le lointain loin, s'il n'y a rien en plus de cela. Voici l'exemple du stérile poisson gris, attrapé au début de la semaine passée et déjà pourri de la queue à la tête avant même la fin de la semaine prochaine. Ici, dans tout cela, comme partout, comme dans le moindre détail de l'univers, se cache déjà la croix. Dans tout. Littéralement dans tout se cache la croix où qu'on jette l'œil. Partout, l'ombre de cette étrange croix nous suivra. Que nous soyons sous l'eau, que nous planions dans les airs ou que notre corps jalousé par les vivants pourrisse déjà dans la terre humide, partout et tout autour, la croix solitaire de la taille du sang nous poursuit. Car le sang est cette grande grandeur qui est aujourd'hui la mieux adaptée pour mesurer la longueur, la largeur et la hauteur. À ce propos, la hauteur est la barre du haut de cette terrible étoile. L'étoile terrible qu'on nommait dans l'ancien temps la croix argentée et qu'on a renommée dans les temps nouveaux bronze. C'est pourquoi je vous appelle à ne pas chercher le lundi rouge dans le jour d'aujourd'hui, car aujourd'hui on est déjà jeudi et le lundi que vous cherchez est déjà passé. Et voilà que vous vous demandez. Où commencer nos exploits terrestres si le poisson que nous avons espéré attraper aujourd'hui a déjà été attrapé hier ? Je vous répondrai avec les paroles du prophète Jean. Pas le Jean qui fut disciple du Christ, mais un Jean tout à fait autre. Le prophète Jean, qui vit dans ce lundi même, est déjà passé. L'exploit de ce Jean est d'avoir décidé de prendre toute sa faute sur lui. Prendre sa faute sur soi, de ce même Jean à qui appartient le propos suivant. Si tu crois en Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu croit en toi.
Ah.
homme à essayer au moins une fois dans sa vie. Hop, que je prends un homme par le bras et que je l'emmène dans la chambre. Aïe, dans une chambre russe avec un lit de plumes et une couverture cousue de chiffon. Aïe, la chambre russe aux cousins remplis de plumes russes, de plumes d'oie. Aïe, plumes et lois et bourrées dans le coussin avec toutes ses plumes. Aïe, que j'emmène mon homme par le bras dormir, ignorer le pire. Tantôt il est dessus, tantôt moi. Deux bougres russes s'amusent sur un lit de plumes russes. Hop, voilà le bonheur, se mesurer par la force, qui crèvera qui. Aïe, la peignée qu'il m'a filée. Aïe, qu'il m'en a mis plein la tomate. 100 ans passeront avant que n'oublie le service rendu. Dans une isba russe, sur le lit de plumes russes. Aïe, comme on a rigolé. Aïe, qu'on s'est caressé les côtes. Dieu monte sur le plateau. Il s'adresse au spectateur.
Bonjour. Je suis votre Arkady Ilyitch. Me reconnaissez-vous? Comment vous sentez-vous? Tiens, prends les fleurs, toutes les fleurs qui poussent sur moi, et à l'intérieur de moi, et sur ma tête, et dans mon âme, et dans mon courrier, toutes les fleurs que j'ai, prends-les. Tiens, prends-les pour toi, toutes mes fleurs, qu'elles soient tiennes. Pourquoi donc tu agis de la sorte? Pourquoi? Rends-moi toutes tes fleurs, et même les fleurs qui sont les tiennes. Pourquoi me les donner? Pourquoi agir de la sorte? Pourquoi? Hein? Mais parce que je t'aime plus que tout au monde. Mais pourquoi m'aimes-tu plus que tout au monde? Je voudrais savoir pourquoi. Mais parce que c'est là tout le sens de mon amour. Tu es Dieu et je t'aime plus que tout au monde. Parce que c'est là même tout le sens de mon amour. Tu es Dieu, c'est là même tout le sens de mon amour. Tu es Dieu et c'est toi le sens de mon amour. Tu es le sens de mon amour, c'est là même que réside le sens. Intéressant, très intéressant. Et comment sais-tu que je suis? As-tu des preuves ou des faits quelconques? Des signaux radio ou bien des chiffres spéciaux? As-tu des radiogrammes? As-tu les radiogrammes qui prouvent que je suis? Ou des photographies de cosmonautes? As-tu des données? Des données spéciales qui prouvent que je suis? Quelles sont tes données, hein? Pas de données spéciales, il n'y en a pas. Ni un quelconque fait spécial, bien sûr. Je n'ai rien de pareil. Mais les autres non plus n'ont rien de pareil. Bien qu'ils aient bâti des églises, trouvé la raison pour les bâtir, se sont basés sur des données pour les construire. Sans cardiogramme ni photographie, ils ne les auraient pas construites. Ou bien, s'il n'y avait pas encore de photographie, il devait y avoir autre chose à la place des photographies. Se sont basés sur quelque chose, n'auraient pas fait comme ça, sans raison, n'en auraient pas construit autant dans le monde entier. Et l'argent, tout l'argent investi, personne n'aurait fait ça comme ça, sans raison. Ça veut dire qu'ils avaient quelque chose. Ils l'ont fait pour quelque chose. Combien d'églises construites et combien de miracles accomplis? Tant de gens dans le monde entier qui croient et ne cessent de croire, sans un seul fait scientifique, sans un seul fait, sans cardiogramme, sans rien, comme ça, sans raison. Mais peut-être qu'ils l'ont le sens. Pour eux, peut-être qu'il y a un sens de croire. Peut-être qu'il leur est nécessaire de croire et de construire et d'accomplir des miracles et le reste dans le genre. Peut-être que chacun en particulier et tous ensemble ont besoin de cela, peut-être. En ont besoin pour quelque chose. Mais toi, tu en as besoin pour faire quoi? As-tu des raisons particulières de croire en moi et de m'aimer, moi? N'ayant ni fait ni cardiogramme, quel sens a pour toi de m'aimer plus que tout au monde et de croire que je suis? Moi, je te répondrai avec des paroles d'amour. Je te dirai que l'amour est l'inconnu. Voilà ce que je te dirai d'abord. Et après, J'ajouterais que l'amour est l'essence de tout ce qui existe. Et on ne peut pas connaître le sens de tout ce qui existe. Il n'y a pas de cardiogramme pour cela, ni d'onde d'éther qui fixe le sens de ce qui existe. Il n'y a pas tout cela, pas de technique pour cela.
Dieu quitte le plateau. Lettre d'Antonina Velikanova à Ivan Viripayev. Bonjour Ivan. Dans ma pièce, il y a deux personnages, Dieu et la femme de Lot. Mais comme vous l'avez compris, je leur ai donné des noms concrets. À Dieu, j'ai donné le nom de mon docteur que vous connaissez, Arkady Ilyitch. Il n'y a aucune ressemblance entre eux. Même qu'Arkady Ilyitch, quand il a lu la pièce, a beaucoup ri. Il a aimé l'idée. Et puis, dans la Bible, comme vous le savez peut-être, la femme de Lot n'a pas de prénom. Simplement la femme de Lot et c'est tout. J'ai décidé de lui donner mon nom. C'est pourquoi, dans ma pièce, la femme de Lot s'appelle Antonina Velikanova. Respectueusement, Antonina Velikanova, femme de Lot. Je plaisante.
Mais s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'il y a ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a aucun sens et qu'il n'y a rien ? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a ?
Il n'y a rien. C'est là toute l'affaire. Il n'y a rien. Ni papier, ni argent, ni plume d'oie, ni pigeon. Il n'y a rien. C'est là toute l'affaire. C'est là que se trouve le sel de l'histoire. Il n'y a rien. Tout le sel est qu'il n'y a même pas de sel.
Non, faux. Faux parce que je sais qu'il y a quelque chose. Dans tout ce qui nous entoure, il y a en plus quelque chose, en plus de ce que nous voyons. Le chlore éradique l'infection et quelque chose en plus. La lune, c'est quelque chose en plus. Dans le ventre enceint d'une femme, en plus de l'enfant, il y a quelque chose. L'épouse sait qu'il y a quelque chose. L'époux sait quelque chose en plus. Chaque homme a essayé au moins une fois dans sa vie. Chaque homme a essayé au moins une fois dans sa vie quelque chose en plus. Mon époux veut de moi quelque chose en plus. Mon époux veut de ses filles quelque chose en plus. Mes filles rêvent d'hommes et de quelque chose en plus. Je connais quelque chose en plus de l'amour. J'aime quelque chose en plus. En plus de l'amour, je sais quelque chose. Chaque homme sait quelque chose en plus. Nous savons tous qu'il y a quelque chose en plus. Nous savons tous précisément qu'il y a quelque chose en plus. Il y a quelque chose en plus.
Et moi, je te regarde et je pense. T'es pas conne, hein ? Pas une conne, pas une conne finie. Pas une conne, j'ai bien deviné. Dans le mille, pas vrai ? Pas une conne, t'es pas une conne, vrai ou non ?
Non, je ne suis pas une conne. Je sais que je ne suis pas une conne. Je ne sais pas qui je suis, mais que je ne suis pas une conne, ça, je le sais. C'est juste. Vous m'avez deviné, dans le mille, oui.
Et si on demandait à un poisson s'il est con ou pas ? Que le poisson nous réponde, hein ? Hein ? Pour sûr, j'en suis plus que persuadée, le poisson dira qu'il n'est pas con, tout comme toi. C'est cela même. Demande à n'importe quel poisson s'il est con ou pas. Et n'importe quel poisson, même le plus con des poissons, te dira qu'il est intelligent. Même un poisson qui se prostitue te dira qu'il est le poisson qui se prostitue le plus intelligent sur Terre. Mais le poisson est con. Tu n'as pas à en douter. Et le poisson se prostitue. De cela aussi tu n'as pas à en douter. Le poisson, c'est Sodome et Gomorre. Et Sodome et Gomorre, c'est la bêtise et la prostitution réunies en une seule personne.
Non.
Oui, tu peux me croire, oui.
Non.
Oui.
Je ne suis pas conne. Je ne sais pas qui je suis, mais je sais très précisément que je ne suis pas comme un poisson qui pense de lui qu'il n'est pas con alors qu'il l'est. Je ne suis pas comme le poisson. Je ne suis pas conne, je le sais précisément, pour sûr.
Exactement comme ça que raisonne le poisson, tout comme toi. Le poisson ne sait pas non plus qui il est, mais qu'il n'est pas con et il en est persuadé, alors qu'il est la dernière des prostituées de Sodome et Gomorre.
Non.
Oui.
La femme de Lot quitte le plateau. Dieu reste seul. Il siffle et exécute quelques mouvements de danse. Dieu cesse de siffler et de danser. La femme de Lot monte de nouveau sur le plateau.
Non.
Oui.
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 Non. Non.
As-tu un rêve ?
Oui. Le sexe avec trois hommes est mon rêve.
Et à part le sexe avec trois hommes, rêves-tu de quelque chose ?
Oui. Je rêve de bonté et de justice universelle.
Bien. Une autre question. As-tu déjà perdu quelqu'un parmi tes proches ?
Oui. Il y a 6 mois, j'ai perdu mon père.
Ça sonne un peu vulgaire. Eh bien, j'espère que c'était un homme bien.
Oui, c'était un homme en or.
Et maintenant, allons ouvrir sa tombe et regardons ce qu'elle contient. Regardons. Si cet or brillera au soleil, je te dirai mieux. C'est seulement à 2 mètres de profondeur, dans sa propre tombe, qu'un homme reçoit son vrai visage. Ouvrez une tombe de 6 mois et vous verrez ce que l'homme est vraiment. Tu mourras et tu pourriras. Et tes pensées sur le sexe à trois se transformeront en bouillie de viande et de verre.
En revanche, mon esprit, l'esprit fusionnera avec l'éternité. C'est là le sens de la vie.
L'esprit, quel esprit ? Pourriez-vous me le décrire ? À quoi il ressemble, cet esprit qui est le vôtre ?
On ne peut pas le décrire. On peut seulement le sentir. On peut seulement l'éprouver.
On peut éprouver un avion ou une fusée. Mais un esprit ne sera jamais qu'une maigre consolation destinée aux faibles. Je te le répète encore une fois, ouvre la tombe de ton père et hume l'air. Et alors tu sentiras vraiment l'esprit. Et ce sera le véritable esprit.
Il ne faut pas parler comme ça. Ma question est des plus simples. Qu'est-ce que je dois faire ?
Texte de Antonina Velikanova.
Du sel. Le poisson salé ne pourrit pas. Salez-vous, devenez un bloc de sel. Regardez la vérité en face. Avouez que j'ai raison, revoyez votre vie tout entière et avouez que vous n'êtes que poisson et ver. Retournez-vous et transformez-vous en colonne de sel. Le sel ne moisit pas. Les colonnes de sel sont capables de rester dressées des millions d'années. Tout autour s'effondrera et moisira, mais le sel restera. Le sel est la vie éternelle. Et tout le reste n'est qu'une éternelle fête de la prostitution.
Que je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire, dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser. Écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur. Cent ans ou bien quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. plaisir, écrire pour tenter de dire, dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli, écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève.
Et s'il n'y a rien, il n'y a pas de poisson non plus. Pas de Sodoma, pas de Gomorrah, et pas de prostitution. Et pas de conne, il n'y a rien. S'il n'y a rien, comme vous le dites vous-même.
Parce qu'avec mon chiffon mouillé, j'ai effacé tous les chiffres et toutes les images à l'intérieur de la tête. Cela n'a pas toujours été comme ça, sans rien qui soit. À l'origine, il y avait tout. Et tout était à l'intérieur de la tête. Et puis j'ai pris un chiffon mouillé et j'ai tout effacé jusqu'au dernier. Jusqu'à ce qu'il ne reste même pas une seule notion, jusqu'au dernier objet. J'ai pris un chiffon mouillé et j'ai effacé tous les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Toute cette prostitution poissonnière, effacée d'un coup. Et même si, à l'origine, il y avait quelque chose, maintenant, il n'y a plus rien. Rien du tout. Regarde à l'intérieur de ma tête. Il n'y a rien dedans. Absolument rien.
C'est faux. Pas un mot de vrai dans cette histoire. Qu'on peut effacer tout ce qu'on a à l'intérieur avec un chiffon mouillé. À l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma tête, il y a tant de choses, tant de différents chiffres et tant d'images et de l'huile de poisson et de la cervelle. Et de la musique. Il est défendu de les effacer comme ça d'un coup. D'autant plus que ne suis pas la conne que vous croyez. Peut-être que beaucoup des choses que nous voyons ne sont pas. Mais il est quand même resté quelque chose. Quelque chose existe quand même. Je le sais aussi bien que moi.
Oh oui. Très intéressant ce que tu as à l'intérieur de ta tête. Quel exemple avancerais-tu maintenant? Alors ? Un exemple.
Un cadet. Je l'ai entreaperçu. Il marchait, fusil à l'épaule, le long des murs du Kremlin, avec casquette et fusil. Je l'ai mémorisé. Il est sans aucun doute. Je sais à 100% qu'il est.
Peut-être bien qu'il est. Peut-être qu'il est. Et maintenant, je prends mon chiffon mouillé et j'efface ton cadet. Hop, et plus rien. Ni mur du Kremlin, ni casquette, ni fusil.
Mais ce n'est pas la seule chose que j'ai. Peu m'importe que tu effaces le cadet, j'ai la démonstration de nombreux théorèmes mathématiques et la théorie de l'inégalité. Cette image, je la vois tous les soirs avant de m'endormir.
Eh bien, tu ne la verras plus désormais. Parce que tout cela, je l'effacerai avec mon petit chiffon mouillé. Hop, comme le cadet. Et plus de toute cette huile de poisson dans ta tête.
Des taches jaunes et vertes. Une sorte de lavis d'aquarelle. Le jaune allongé de vert. C'est mon préféré. Qu'on efface plutôt mon père. Mais ces taches sont ce que j'ai de plus cher. Interdit de les effacer. Qu'on efface mon père et toute sa famille. De toute façon, ils finiront tôt ou tard. Par se détruire d'eux-mêmes. Mais... interdit de mouiller les taches avec de l'eau. Ces taches sont ce que j'ai de plus cher. La chose la plus chère que j'ai.
J'effacerai. Et le père, et les taches, ces taches stupides. Seuls les poissons et les prostituées peuvent avoir dans la tête de telles taches.
Non, s'il vous plaît, non. Cela me ferait mal de me séparer de mes taches. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi ? Je t'en supplie, cela me ferait du mal de me séparer de mes taches. Pourquoi ? C'est la chose la plus chère que j'ai.
Il est interdit d'aimer des taches d'aquarelle dans la tête plus que son propre père. Interdit.
Interdit. Interdit d'aimer ton père simplement parce qu'il est ton père. C'est injuste, c'est faux. On ne choisit ni son père ni sa mère. Si ma mère m'a trahi, trahi ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie... ou si elle est stupide ou mauvaise, alors je ne l'aimerai pas. J'aurai des égards pour elle et je l'aiderai jusqu'à la fin de sa vie. Mais il est interdit de me forcer à aimer ma mère simplement parce qu'elle est ma mère. Mais j'aimais ma mère, c'est vrai. Elle est partie très loin, en voiture. Mais je n'aime pas mon père, je ne regrette pas que tu l'aies effacé. Et il est interdit d'effacer mes tâches, parce que ces tâches sont pleines de mon sens.
Que Sodome et Gomorre dans ta tête. Et je passe un coup de chiffon mouillé et plus rien. Plus de cette débauche, de cette pédérastie de l'esprit dans ta tête de poisson. Hop ! Plus rien.
Dieu quitte le plateau. La femme de Lot reste seule. Dieu revient.
Et maintenant, je voudrais vous raconter une histoire oubliée des dieux. Celle de la création du premier homme du monde par notre Seigneur Dieu. Comme chacun sait, il ne l'a pas créé avec de l'air et de la poussière cosmique, ni avec le feu, ni avec
J'ai
l'eau.
J'ai mal !
Mais il a créé cet homme avec de l'argile.
J'ai mal parce que tu as effacé mes tâches les plus chères, les tâches de mon sens, et tu l'as effacé. J'avais un bout de sens et tu l'as effacé.
Ce n'était pas un sens, c'était les bordures et des contours d'un sens stupide. La fête de la prostitution et la fête du poisson stupide. Et maintenant, il n'y a plus rien dans ta tête.
Dieu quitte le plateau. La femme de Lot reste seule.
Il y a en plus de tout le reste, encore quelque chose. Il y a quelque chose en plus. Je ne saurais pas vivre, et je ne savais pas qu'il y a en plus de tout le reste, quelque chose encore. Pas Dieu, pas le diable, pas la science, pas la philosophie, pas la mystique, et pas même les sentiments. Il y a, je le sais précisément, je le sens, et beaucoup d'autres le savent, pas tous, mais beaucoup. J'ai mal, j'ai très mal que tu aies effacé avec ton chiffon poissonnier mes chères tâches. Mais même sans mes tâches, j'ai encore quelque chose. Il y a des gens, pas tous, mais beaucoup, qui savent que dans le monde, il y a quelque chose en plus. Impossible de l'effacer. Interdit. Il est interdit de le regarder. Dieu, qui n'est pas, a dit à la femme de Lot qui n'était pas. Ne te retourne pas, sinon... Tu te transformeras en une colonne de sel. Ne te retourne pas, là-bas derrière toi, il n'y a rien à part des villes effacées de la surface de la terre. Mais je veux regarder, je veux me retourner et regarder. Je sais que là-bas, à part des villes effacées de la surface de la terre, il y a quelque chose en plus. C'est pour cette seule raison que je vis au milieu de toute cette bêtise. Car je sais, comme beaucoup, pas tous, mais beaucoup savent, qu'il y a dans le monde, en plus de tout le reste, encore quelque chose. Est-ce que cela ne vous est pas arrivé quand tout à coup, sans crier gare, les larmes et la douleur se mettent à courir le cœur intérieur et la tête intérieure? Y a-t-il une cause aux vraies larmes intérieures? Non. Il n'y en a pas. Et si on revient sur qui est poisson et qui est con, c'est celui qui a peur d'avouer que, en plus de l'amour pour sa patrie, pour sa mère, pour son Dieu et pour ses enfants, il y a quelque chose encore dans le monde.
La femme de Lot s'assoit par terre et reste sur le plateau. Seule, elle pleure. Dieu retourne sur le plateau et rejoint la femme de Lot.
Peut-être que tu diras aussi que dans le viol d'un enfant, il y a encore quelque chose en plus de la douleur et de la terreur.
Oui, il y a quelque chose en plus.
Peut-être que dans une bouteille vide aussi, en plus du verre et de la forme, il y a quelque chose.
Oui, il y a quelque chose en plus.
Peut-être que dans la vérité aussi, il y a quelque chose en plus de la vérité?
Oui, dans la vérité, en plus de la vérité, il y a toujours quelque chose.
Peut-être que chez les gens aussi, en plus de la mort et de la bêtise, il y a encore quelque chose?
Non. Il n'y a rien. Chez les gens, en plus de la mort et de la bêtise. Mais dans la mort elle-même, ou dans la bêtise, même prise séparément, il y a quelque chose en plus de la mort et de la bêtise.
Et chez moi, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus de moi-même?
Et toi-même, tu répondrais comment à cette question?
C'est de ta bouche que je veux entendre la réponse.
On ne peut pas entendre cette réponse sur soi-même que de sa propre bouche.
Je ne peux pas entendre la réponse de ma propre bouche parce que je n'existe pas moi-même.
Tu en es sûre?
Oui, je me suis effacée de mes propres mains à l'intérieur de moi-même.
Donc, on devrait t'envier?
Non, parce qu'il ne reste personne à envier.
Oui. Malheureusement, il n'est pas tout à fait simple de perdre complètement la tête.
Pratiquement impossible.
Alors qu'on aimerait tant.
C'est le rêve de toute ma vie.
On dit que les rêves se réalisent.
Ils se réalisent chez ceux qui sont. Chez ceux qui ne sont pas, il n'y a rien à réaliser. Je ne suis pas. Et mes rêves les plus secrets ont tous cessé d'exister depuis longtemps.
Et moi, je suis. Et tous mes rêves les plus secrets se sont réalisés depuis longtemps.
Et qu'est-ce que tu ressens?
Un vide étrange. Et toi?
La même chose. Exactement.
Pleure dans une isba poisseuse. Pleure parce qu'il ne rit pas et ne rit pas parce que les larmes courent sur ses joues. La femme est morte, elle dort, le mari est mort, mais ne laisse pas les nerfs du mort ont craqué. L'insomnie l'a gagné et les larmes coulent en gouttes translucides sur sa barbe épaisse. Le mort ne dort pas. Écoute la radio. La radio parle une langue exotique, une radio miracle. La radio des morts grésille accrochée au mur, remplit la tombe d'une exotique pagaille. Le signal radio fait pousser les poils. Le bougre mort pleure dans sa tombe où dort sa femme morte et où une radio exotique influence la croissance du poil humain. Les ondes radio, la radio des poils. La femme morte dort et le mari mort souffre de la solitude et du vide. Il ne se passe rien. Il a vécu, rien ne s'est passé, le voilà mort et rien non plus ne se passe. Oust ! La femme dans la tombe, oust, dort d'un sommeil éternel. Oust ! Le mari dans la tombe, oust, pleure des larmes éternelles. La radio joue sans fin ni début. La radio sans fin ni début. Joue et empêche de mourir en silence. Toute la tombe est remplie du signal radio. Chez le bougre mort, les poils poussent dans les oreilles et la barbe à cause d'ondes radio lointaines. Et là où il y a des larmes et des rêves, il n'y a pas de raison pour les rêves et les larmes. Les larmes et les rêves l'ont attrapé par la barbe et l'étouffe. Les larmes et les rêves chantent dans les oreilles, et nulle part on ne peut trouver refuge contre les larmes et les rêves. Pleurer et dormir, voilà toute ta vie. On dit que là où il y a des larmes, fort est le sommeil. Je dors et je dors, je pleure et je pleure. Qu'est-ce qui me fait pleurer? Quoi? Oust, je sais bien. Quoi? Je le sais. Et les larmes et les rêves coulent sur mes joues parce qu'il n'y a pas de raison pour les larmes et les rêves. Hier, dans l'isba, un bougre est mort et un enfant est né. C'est là toute la tragédie? Chienne de meuf, pourquoi tu accouches? Chienne, pourquoi tu accouches? Chienne, pourquoi chienne mets-tu au monde des vieillards morts? Cette chienne de meuf accouche et accouche encore, et les bébés grandissent et vieillissent et s'allongent en vieillards dans des cercueils de bois de sapin. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi, si Dieu lui-même n'est pas? Si même ce qui est n'est pas, pourquoi souffrons-nous? Et avant de mourir, une fois mort, pourquoi pourrions-nous, dans un cercueil en sapin, comme des vers, à quoi bon et pourquoi? Un mort dort dans sa tombe, et le travail avance. Un jour, compte deux, une semaine, six mois, peau et viande mangées par les vers et l'âme mangée par un Dieu invisible. Dieu est invisible, c'est pourquoi il fait ce qui lui chante. Dieu mange les morts et abandonne au temps les ossements. Mais le temps n'a pas assez de dents pour les os. Dors, petite meuf. Je ne toucherai pas tes os. Dors, bougre. Je ne toucherai pas ton âme osseuse, qu'elle pourrisse. Oust, les âmes humaines pourrissent à 2 mètres de profondeur. Oust, elles pourrissent. Oust, la mère de ma mère a pourri et mon âme commence à peine à pourrir. Oust, que mon âme au plus vite se transforme en ver. La radio joue sans fin ni début, la radio sans début ni fin. Joue et ne laisse pas mourir en silence. Toute la tombe est remplie du signal radio. Les poils poussent dans les oreilles et la barbe du bougre mort à cause des ondes radio lointaines. Oust ! Que mon âme au plus vite se transforme en ver. Oust ! Je viens à peine d'y penser et c'est déjà arrivé. Oust ! Je viens à peine d'y songer que mon âme n'est déjà plus que ver, pourrie et pleine de ver. Pas de repos. Même dans le cercueil, les vers sont eux aussi contemporains de notre Dieu. Pourri, mangé ou pas, pourri, rien n'est jamais comme je veux. Et comment je voulais, qui sait ? Personne ne sait, même pas moi-même. Je suis le prophète Jean. Un prophète dans sa propre patrie ignore ce qu'il veut. Je suis le prophète Jean. Je ne veux rien, je suis mort et je dors.
Lettre de Antonina Velikanova à Ivan Viripaev.
Bonjour Ivan, j'ai travaillé 2 jours et je suis fatiguée. J'avais l'impression qu'il neigeait et que cela pourrait embellir quelque peu ma vie. Mais je n'ai pas pu trouver ce sens secret que tout le monde cherche. J'ai cherché 2 jours et je suis fatiguée. Je regarde en haut et je vois que je suis une petite figurine sur un lambeau d'un tissu rouge. Je me tiens debout sur le lambeau d'un tissu rouge. Je suis toute faite de rouge. Ma vie passe goutte après goutte. Je suis debout sur un lambeau de tissu et j'attends. On m'a dit « Tiens-toi ici debout qu'on te regarde ». Et voilà que je me tiens debout et tout le monde me regarde. Attend du sens de ma part. Et moi, je ne fais que me tenir debout et c'est tout. Je me tiens juste debout. C'est important. Parfois, il est important de juste se tenir debout comme ça et c'est tout. Se tenir debout pour qu'on regarde comment tu le fais. Comment je le fais ? Que tout le monde regarde et voit comment je fais. Voilà comment je le fais. Je me tiens debout et c'est tout. Tout le monde sait de quoi il s'agit et il faut arrêter d'en parler. Est-ce nécessaire de nommer les raisons pour lesquelles les larmes courent sur les joues et les larmes intérieures courent à l'intérieur ? Tout le monde connaît les raisons pour lesquelles la vie se transforme en une étoile de mer. Chacun a ses propres raisons pour les larmes. Vous m'avez écrit que le sujet manque dans ma pièce, que le sujet est utile pour que le spectateur comprenne ce qui se passe. Mais est-ce que le spectateur ne comprend pas ce qui se passe avec lui tous les jours ?
Blague à la bouche. Hep, Arkady Ilyitch arrive quand on ne l'attend pas. Et quand il s'en va, on ne veut pas le laisser partir. Oh, Arkady Ilyitch, l'âme de la compagnie le bout en train. Peut faire danser n'importe qui, même le cul de jatte s'élance et danse le krakoviak. Un an passe. toujours rien. Et la troisième année, voilà qu'arrive Arkady Ilyitch. Il commence à t'amuser, à t'en mettre la cervelle de travers. Et Arkady Ilyitch, quel maître des fêtes tu fais. Hep, Arkady Ilyitch, quel roi de la combine tu fais. Hep, Arkady Ilyitch, quel connard tu fais. Arkady Ilyitch, allons sur la lune, qu'il dit. Et il fonce vers le soleil. Quel pédale tu fais, Ilyitch, pour dire vrai. Vaut mieux chasser le diable avec Belka qu'aller avec toi d'une planète à l'autre. Et Arkady Ilyitch, je t'aime quand même. J'admire ta fougue et ta débauche. On s'ennuie sans des cons comme toi. Et avec toi, on s'amuse tant que même les docteurs nous dansent autour avec fourche et chaudière. Et Arkady Ilyitch, je t'aime et je te crains, toi. Le plus grand trou du cul du monde, Arkady Ilyitch, comme je t'aime. Sur la tête de Dieu, plus que tous les autres. Eh, mon trou du cul, merci pour tout. Et sur la tête de Dieu, je t'en dois une fière. Une vraie bête, suceur de mes deux, je te salue bien bas. Je t'aime, sur la tête de Dieu. Ah, reviens encore, qu'on joue au con et au givré, comme on sait si bien le faire. Eh, hey, Arkady Ilyitch, on fera pire encore. Eh, hey, Arkady Ilyitch, stop. Oh, Arkady Ilyitch, sors d'ici.
C'est moi, Arkady Ilyitch. Comment vous sentez-vous?
Personne ne se sent.
Sans importance, parce que je veux vous raconter le mythe du petit bonhomme d'argile.
Arkady Ilyitch, allez-vous-en.
Cela vaut le coup de l'écouter. Une histoire très instructive. Un jour, notre Seigneur Dieu a sculpté un petit bonhomme d'argile et a soufflé en lui la vie.
Allez-vous-en, Arkady Ilyitch, je vous en supplie.
Je ne peux pas m'en aller, je viens d'arriver. Surtout que je n'ai nulle part, comme on dit, où m'en aller.
Arkady Ilyitch, allez-vous faire enculer.
Eh non, n'y comptez pas. Eh bien, notre Seigneur Dieu a installé sur ce petit bonhomme d'argile, dans un endroit d'une étonnante beauté. Il l'a installé dans une bassine émaillée blanche.
Je ne vous écoute pas.
Il y a des gens qui m'écoutent. Cette bassine blanche se trouvait exactement entre les deux fesses d'un géant nommé Cressel. Excusez-moi, mais d'où il sort ce géant? D'où, répondez-moi? D'où il est sorti, me demanderez-vous? Si, à part Dieu et le petit bonhomme d'argile, il n'y avait encore personne? Je réponds. Ce géant énorme, nommé Cressel, n'y était pas. Il existait seulement dans l'imagination de notre Seigneur. Seulement dans son imagination. Il était dans la tête de Dieu, à l'intérieur de sa tête, dans son cerveau. Et voilà que là-bas, quelque part dans le cerveau de Dieu, entre les fesses du géant Cressel, notre petit bonhomme s'est installé. Mais où Dieu s'est-il installé quant à lui? Demanderez-vous avec raison.
Ça y est, c'est parti.
Dieu, quant à lui, ne s'est pas installé n'importe où. Pas dans une poubelle, ni au fond du Loch Ness, non. Il s'est installé sur le soleil. Oui, oui, sur le soleil. Un homme d'argile habite dans une bassine. La bassine est dans les fesses du géant Cressel. Le géant Cressel est dans la tête de Dieu. Et Dieu, sur le soleil, voilà. Est-ce qu'il y a parmi vous des croyants? Je pense que oui. Ce n'est pas vrai que vous aspirez à vous unir avec Dieu. Et Dieu, c'est le soleil, alors il faut s'envoler par là. Et alors, pourquoi vous restez en place? Prenez vite place dans le vaisseau. Et 3, 2, 1, envoie. Et 5 minutes, le vol est normal. 10, ça va. Et même 20 qu'on vole sans souci. Et voilà que 9 jours se sont écoulés. Et en voilà déjà 40. Et voilà un an déjà. Et la vitesse est de plus en plus grande. Et le soleil est de plus en plus proche. Et voilà qu'il chauffe. Déjà tout prêt à en virer les icônes dehors. Les cheveux brûlent, les yeux fondent. Une lumière forte, aveuglante. On ne voit plus rien de ce qui se passe. Je suis tout en flammes. Qu'est-ce que c'est que ces flammes qui brûlent sans meurtrir? Mais ce sont des flammes de soleil. Dans ma tête, un soleil fort brûle. Toute ma tête est serrée. À cause des flammes, une maladie solaire. Je ne vois plus rien. Il ne fallait pas s'envoler. C'était une erreur. Il ne fallait pas s'envoler. Si, Il le fallait parce qu'ici, pas la peine de rester. Ici, on te tuera à grands coups de bec. Interdit de rester, sinon on t'embarquera. Il fallait s'envoler. Il le fallait absolument. C'est parti. Un, deux, trois, c'est parti.
Mais regardez un peu qui vient nous voir. Mais c'est Arkady Ilyitch en personne. Un, deux, trois, c'est parti.
Dieu et la femme de l'homme montent dans un vaisseau et s'envolent vers le soleil. La pièce d'Antonina Veskanova est terminée. Moi, je suis Antonina, une femme russe. Je suis Antonina, première femme russe cosmonaute. Avant moi, les deux autres femmes russes cosmonautes s'appelaient Svetlana et Valentina. Mais elles n'ont pas volé si loin dans le cosmos, bien que cela n'a pas été simple pour moi d'obtenir l'autorisation de vol. Plus précisément, je n'ai toujours pas reçu cette autorisation de la part des autorités, parce que je ne suis pas cosmonaute professionnel, mais cosmonaute amateur. Ce qui veut dire, je vole où je veux. Seulement, de mon propre cosmodrome, dans mon propre vaisseau, et à mes frais. Vole comme tu veux et où tu veux, mais dans ton propre vaisseau et à tes frais. Je me suis adressé à l'aérospatial russe. De combien d'argent faut-il disposer pour voler dans le cosmos à ses frais? Parce que je n'ai pas d'autre solution et voler m'est absolument nécessaire. L'aérospatiale russe m'a donné un chiffre qui a fait que je me suis mise à saigner du nez et toute ma cure a été compromise. Je comprends désormais que le tourisme spatial est au-dessus de mes moyens. Je m'enfonce dans une dépression, ce qui fait monter ma tension aux limites les plus élevées. Résultat, il m'arrive quelque chose de... Il m'arrive quelque chose qui fait que je vole. Quelque chose qui fait que je commence à voler. Quelque chose qui fait que moi, Antonina, je deviens la première femme cosmonaute russe. Mais non seulement je deviens la première femme cosmonaute russe parce que je rêvais de devenir non seulement cosmonaute, mais aussi je rêvais de m'envoler vers le soleil. Parce que si on vole, il faut voler jusqu'au bout. Et le soleil veut exactement dire voler jusqu'au bout, car le soleil, c'est la fin et le début à tout. Et maintenant, le rêve qui est le mien se réalise, parce que il m'est arrivé quelque chose qui a permis de réaliser ce vrai rêve qui est le mien. Et ce rêve de s'envoler vers le soleil est le plus vrai. Et ce rêve est le plus secret. Et ce rêve qui est le mien s'est maintenant réalisé.
Le prophète Jean monte dans le vaisseau et s'envole aussi. C'était Genèse 2 de Ivan Viripaev. On espère que vous avez passé une bonne écoute au Théâtre de la Gamelle sur 102.2. Les infos d'actualité, c'est que le 15 décembre, c'est le déconfinement. Les théâtres rouvrent. On espère se retrouver bientôt, peut-être dans les théâtres. Merci à toutes et tous pour cette lecture et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.
À la semaine prochaine.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'arme. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, ce noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.